franceinter.fr.
Ce qui nous importe, c'est l'histoire, la grande, avec un H majuscule.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Chris Marker et le cinéma ouvrier.
Nous, on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins sympathiques, mais de l'extérieur, et que, de même que pour sa libération, la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre à elle-même. Et que c'est quand les ouvriers ont entre les mains les appareils audiovisuels qui nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière, et sur ce que c'est qu'une nouvelle, et sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine.
Cette voix que vous venez d'entendre est rare. C'est celle de Chris Marker. Chris Marker, un pseudonyme qu'on ne peut rapprocher d'un visage, il refusait les photographies. En 1967, il a déjà écrit, édité beaucoup de livres et réalisé une dizaine de moyens et courts-métrages, et il commence à filmer les ouvriers de Rodiaceta en grève. Ceux-ci ne se reconnaissent pas dans ce qu'il a filmé. Il répond « Eh bien, je vais leur donner non pas des films, mais le cinéma ». Commence une aventure collective de 6 ans à Besançon et à Sochaux, les groupes Medvekin, qui témoignent de l'étonnante insubordination ouvrière de l'époque. « Je vous écris d'un pays lointain », c'est la formule qu'aimait utiliser Chris Marker quand il voyageait. La classe ouvrière qu'il a connue n'est plus, qu'elle est implosée sans révolution, n'était pas pour l'étonner, n'ayant jamais imaginé, disait-il, que l'histoire était sucrée, je ne lui trouve pas un goût amer. Je suis déjà heureux que quelques-uns y aient pris leur responsabilité d'homme. Xavier Vigna, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié une grande histoire des ouvriers en France chez Perrin et peu avant, aux presses universitaires de Rennes, un livre sur l'insubordination ouvrière à l'époque qui va nous concerner aujourd'hui, les années d'avant et d'après 1968. Et ce livre commence par l'évocation d'un film de Chris Marker.
Oui, parce que je voulais explorer justement cette contestation ouvrière protéiforme de cette période. Et une des manières les plus, qui me semblait la plus pertinente de la regarder était d'écouter et ce qui se passait à Besançon, justement autour de ces usines Rodiaceta et IEMA, et notamment une figure, celle de Suzanne Zedet. Voilà.
On l'entendra tout à l'heure, Suzanne Zedet. Alors, vous avez passé le week-end à retrouver les films de Chris Marker et de son groupe. Il faut que je signale à nos auditeurs la réédition en version restaurée dans 2 coffrets, l'un chez Arte et l'autre aux éditions Montparnasse, d'une partie de cette œuvre protéiforme. Vous l'avez dit, Chris Marker, il est mort en 2012 et les dernières années de sa vie étaient consacrées à guetter les choses, tel un chat. Les chats n'aiment jamais le pouvoir, disait-il, sur le monde numérique. Très beau site, chrismarker.org, n'est pas mort puisqu'il avait organisé sa disparition sur le net et que le net, c'est une mémoire sans fin. Alors, revenons à la période qui nous intéresse. Il y avait un journal de l'Action catholique ouvrière qui s'appelait « Masses ouvrières ». Et en effet, 8 millions d'ouvriers, plus du tiers de la population à la fin des années 1960.
Voilà, c'est un monde qui est numériquement est en pleine croissance, qui se renouvelle en profondeur parce que, évidemment, il bénéficie de l'apport des paysans qui délaissent leur exploitation agricole, une émigration massive en provenance notamment des pays de l'Europe méditerranéenne, et donc un monde qui bénéficie de la croissance économique, la croissance industrielle, de cette expansion pour croître et se renouveler en profondeur.
Et alors des possibilités sont ouvertes à ce qu'on appelle à l'époque le mouvement ouvrier. À partir de la fin de la guerre d'Algérie, dites-vous, c'est un moment déclencheur.
Voilà, c'est-à-dire que la guerre d'Algérie est une espèce d'étau dans lequel était pris le monde ouvrier et la fin de cette guerre en 1962 permet une contestation plus ample qui se marque en particulier dans la grève des mineurs en 1963. Il y a toute une série de luttes ensuite et ce qui se passe à Besançon en 67, enfin Besançon à Lyon et dans toutes les usines Rodiaceta marque quand même une de ces grandes grèves de l'avant 68.
Alors Rodiaceta appartient au groupe Rhône-Poulenc, c'est un ensemble de 4 usines avec une grève en mars 1967 et cette grève rebondit en décembre 1967 sous l'influence
de méchants trotskistes, de voix ouvrières.
Alors, il y a deux épisodes assez différents. Une grève longue d'un mois avec occupation, c'est important parce que c'est rare à l'époque et c'est une illégalité. En février-mars 67, essentiellement à Besançon et à Lyon, dans l'usine de Vez, où militent effectivement quelques militants de voix ouvrière, donc un groupe trotskiste, ce qui déplaît à une partie de l'appareil de la CGT. Et c'est ceux qui sont les plus contestataires pour dénoncer une organisation du travail extrêmement compliquée, ce qu'on appelle en 4-8, et donc des horaires en décalé, c'est-à-dire on travaille le matin, puis l'après-midi, puis la nuit, avant d'être en repos. Et c'est cette organisation-là qui est dénoncée au moment de cette grande grève de février-mars 67.
Et la grève de décembre 67, qui rebondit sur la première, se termine par un vaste mouvement de solidarité de tous les ouvriers des quatre usines du groupe. Ils sont quelques 10 000 à verser une journée de salaire. Celui qu'on va entendre aujourd'hui, c'est un homme pont. Il s'appelle Yo-Yo Morivard. Il est donc interrogé ici dans un film du groupe de Chris Marker. C'est un homme pont parce qu'il est passé de la CFTT à la CGT.
10 000 travailleurs, on peut estimer à 10 000 travailleurs, ont perdu une journée sans... Comme ça, là, c'est pas un exploit, ça, non. C'est ça, la solidarité. C'est quelque chose de formidable. Je sais pas, moi, comparé à ce que nous dit Guy Lux ou à ce que nous dit France Dimanche, c'est quand même formidable, c'est une autre gueule, non? Et c'est ça qu'il faut avoir conscience, quoi, que les gens, que c'est pas les conneries qu'on nous raconte qui sont belles, c'est parce qu'il n'y a pas dans France Dimanche ou dans Ici Paris, mais c'est dans ce que fait la classe ouvrière. Enfin, perdre 5000 francs parce que des copains ont été licenciés et encore aujourd'hui verser des sommes de salaire pour que ces gars-là aient leur salaire d'assuré. Si ça se savait, ça, un peu, si on pouvait le développer. C'est pas de la culture, ça?
C'est pas de la culture, ça. Franck Olivard, qui a préparé cette émission, était très étonné de voir la place que les préoccupations culturelles tenaient ici chez les ouvriers de la Rodia Seta. Il faut dire que Chris Marker, il était issu des mouvements d'éducation populaire, travail et culture, et peuple et culture, l'un d'origine catholique et l'autre d'origine communiste, et qui avait à Besançon un centre culturel qui va être très important pour la constitution du collectif cinématographique.
Oui, à Besançon, en 1959, est créé un centre culturel populaire à Palantes-les-Orchamps, un quartier de Besançon qui est nouveau à ce moment-là, et où s'investissent un certain nombre de militants, un couple de professeurs catholiques, et également Paul Seb, qui est un de ces militants de Peuple et Culture, qui travaille à Rodia Seta, qui est militant CGT à la Rodia Seta, qui prend en charge la bibliothèque de l'usine et qui, dans ces horaires décalés dont je vous parlais, propose aux ouvriers, au tout petit matin, entre 4 et 6 heures du matin, de lire, de découvrir des beaux livres sur un certain nombre de peintres, etc. etc.
Donc on discute de Picasso autour d'un bol de ricoré.
Voilà, au tout petit matin. Et ensuite, cette action, ce souci culturel, vous le retrouvez pendant l'occupation, puisqu'il y a des projections de films. Chris Marker lui-même, évidemment, enfin évidemment non, ça n'a rien d'évident, c'est justement très intéressant, se rend à Besançon pour voir cette grève. C'est là qu'il rencontre ses militants, et c'est là qu'il décide de leur confier ensuite, d'abord de faire ce film, puis ensuite de leur confier une caméra.
Oui, parce que les premières réactions étaient souvent extrêmement réservées. Et avec ses amis, citons le nom de Mario Marais, personnage extraordinaire, hein.
Oui, alors...
Résistant,
voilà, c'est ça qui est important.
Expédition polaire...
Voilà, résistant, c'est-à-dire, on a une génération de la résistance. Marker, Mario Marais, Antoine Bonfanti, qui est l'ingénieur du son, c'est une génération qui s'est politisée dans la résistance.
Alors, avec ce petit groupe, il décide de constituer la communauté Medvedkine. Alors, Medvedkine...
Medvedkine, c'est un réalisateur soviétique qui, dans les années 30, a inventé le ciné-train. Cela consistait à filmer dans la journée les paysans qui étaient en train de construire ce qu'on pensait être l'Union soviétique, de monter le film dans la journée et de le projeter le lendemain.
Et avec donc, discussion le lendemain,
avec
dans le
discussion,
train.
Voilà. Et l'idée est, à Besançon, de reprendre un tout petit peu cette expérience, c'est-à-dire que c'est à la classe ouvrière elle-même de se filmer pour elle-même et ainsi de susciter les débats. Pour justement éviter Guy Lux, etc., etc., pour montrer la vraie beauté. La vraie beauté, c'est la classe ouvrière qui fait œuvre de solidarité.
Alors que les bouches s'ouvrent. Sauf que il y a des bouches un peu fermées. Il y a de plus en plus de femmes dans le monde ouvrier, soit qu'elles soient dans les ateliers, soit qu'elles arrivent dans les usines au titre d'employés. C'est le cas de Suzanne Zedek, que vous citiez tout à l'heure. Mais on va, si vous le permettez, à tout seigneur, tout honneur, d'abord entendre son époux, Claude Zedek, qui est ouvrier à la Rodiaceta dans le film « À bientôt, j'espère ».
Entre 4h30, elle repart au boulot à 6h30. Je la vois juste le midi, tu sais, elle me réveille, j'ai mal luné. Tu vois ce que c'est quand t'as travaillé et puis t'as mal dormi. Alors, ça va pas. Le soir, elle rentre à 6h30, je repars à 7h20, moi. Il faut qu'elle fasse à manger. Et puis, il y a encore ma gosse, en plus de ça. Quand elle part au boulot, faut qu'elle emmène la gosse et les gens qui la gardent. Alors, le midi, elle la reprend. Et puis, elle la remène à 1h30 et elle reprend son boulot à 2h. Alors, tu vois, du coup, faut, elle descend la gosse à 1h30 au bas du bâtiment, puis elle revient, elle remonte pour un quart d'heure. Parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse là-haut? J'estime que ma place, c'est encore moins dur que la sienne, tu comprends? Moi, je peux pas le faire avec mon travail d'équipe.
Alors, remarque, pendant la préparation de l'émission au bureau de Jacques Sigal, il aurait pu emmener la gosse à l'école ou faire la cuisine.
Évidemment, mais dans le monde ouvrier de l'époque, il y a une répartition sexuée des tâches qui est très, très... serré et qui aboutit à ce que les épouses, les mères, fassent absolument tout le travail domestique. Et c'est, ça aboutit à ce discours qui aujourd'hui apparaît un peu étonnant et suranné.
Sauf qu'à mesure que les bouches s'ouvrent, Suzanne Zedek travaille dans une petite usine d'horlogerie où il y a une majorité de femmes sur les 220 employés. S'émancipe, monte un jour sur un muret, c'est une scène fameuse d'un film du groupe Medvekin, prend la parole pour la première fois et va fonder une section syndicale.
Voilà, c'est-à-dire que ce qui est magnifique dans ces films de Medvekin, c'est de voir la naissance d'une figure syndicale féminine dont... À bientôt, j'espère, elle est largement l'épouse de Claude Zedek. Et dans Classe de lutte, elle devient une héroïne, Suzanne Zedek, qui, à la faveur de la grève, prend la parole, conduit la grève, résiste au patron et crée une section syndicale CGT, ce qui lui vaut ensuite toute une série de désagréments.
Alors, Classe de lutte, c'est le film qui suit À bientôt, j'espère. Là, le mois de mai est passé. La CFDT n'a pas obtenu autant que la CGT dans les négociations avec Georges Pompidou, qui avait choisi la CGT. Mais tout de même, la section syndicale est reconnue. Ça ne veut pas dire qu'elle s'implante sans difficulté.
Exactement, parce que on le voit très bien dans Classe de lutte. Suzanne Zedek était reconnue comme une employée modèle avant 68. Sitôt qu'elle crée cette section syndicale, subit une répression, elle est déclassée, elle perd 250 francs mensuels, ce qui est considérable à l'époque, hein, c'est presque une amputation d'un tiers de son salaire. Donc on voit très bien que malgré la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, ça n'empêche pas la persistance d'une répression syndicale tout à fait importante dans les entreprises.
Et quelle section syndicale? Alors Chris Marker dit « J'ai toutes les raisons de respecter le courage des communistes. » 80% des responsables d'un certain poids de la CGT étaient communistes. « J'ai toutes les raisons d'admirer leur sens de l'organisation, j'ai toutes les raisons de haïr leur pensée binaire. » Ce ne sont pas les bisbilles à l'époque entre CGT et CFDT, c'est l'affrontement de deux cultures.
Oui, c'est l'affrontement de deux cultures. D'un côté, une volonté héritée de... donc pour la CFDT, héritée de la doctrine sociale de l'Église, qu'on est en train de transformer en profondeur, et d'insister sur une transformation... des conditions de travail et une promotion qui est en train de s'opérer du thème de l'autogestion. Du côté de la CGT, on est dans des revendications plus classiques où on défend surtout la question des salaires, la question des plus que la question des conditions de travail. Ce qui est intéressant, c'est que justement les groupes Medvedkin, qui sont essentiellement composés de militants CGT et communistes, déploient à l'intérieur de ces organisations une contestation culturelle.
Un peu anarcho-syndicaliste, au fond, vieille tradition française. Alors, on va l'entendre, enfin, Suzanne Zedek. Alors, la parole ouvrière est quand même encodée, dites-vous, par le syndicalisme. Slogans et chansons vont ici se répondre. La chanteuse qu'on va entendre, en alternance avec Suzanne Zedek, eh ben, elle a connu, elle aussi, une conversion, puisqu'au début des années 60, de secrétaire qu'elle était, elle est devenue militante.
Il a fallu expliquer qu'il fallait s'organiser, tu vois, qu'il fallait élire des délégués du personnel, qu'il fallait créer un comité d'établissement. C'est le côté de la préparation des luttes, quoi, si tu veux. C'est le boulot qu'un militant doit faire tous les jours.
Ainsi combattent dans les maquis des usines françaises les guérilleros de la petite aventure.
Et les gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un syndicat et tout ça, ils croient que ils arriveront à se faire une situation tout seul, tu vois. Il y a cette espèce d'individualisme.
Le patron demande la parole au nom de la liberté. C'est pas le patron qui commence la grève, c'est nous. Il a écarté nos délégués, preuve qu'il ne reconnaît pas nos syndicats. Quand il y a des licenciements, on ne fait pas de vote à bulletin secret pour demander l'avis des gens. Au nom de la démocratie, ils sont fatigués en ce moment, versons-leur un acompte. On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées.
Nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Et nous devons continuer notre lutte ensemble.
Au nom de la liberté, canal, nous ne pouvons pas accepter la division. Nous avons décidé de la grève ensemble. Nous avons exposé nos revendications ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction ensemble. Nous devons continuer notre lutte ensemble.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Chris Marker, le cinéma ouvrier et les groupes Medvekine auxquels était très liée Colette Magny qu'on vient d'entendre. Nous allons maintenant aller dans un deuxième groupe, celui de Sochaux, où 68 avait été particulièrement violent, ou plutôt l'après-mai 68, 11 juin 68, date cruciale à Sochaux.
Oui, c'est-à-dire que la grève à Peugeot, comme dans de très nombreuses usines d'ailleurs, se prolonge en juin, et que le 11 précisément, les forces de police interviennent, et cette intervention brutale en pleine nuit déchaîne des violences tout à fait importante, puisqu'il y a deux ouvriers qui meurent à la suite de ces combats, qu'il y a des dizaines de blessés dont certains sont amputés. Donc la ville de Sochaux est le théâtre de très violents affrontements. C'est une grève très très dure.
Au comité d'établissement de Peugeot, c'est un point d'appui pour les syndicats, existe un château, Clermoulin, qui est un centre culturel, un peu le pendant de ce qu'était Palante à Besançon. Et ça va être un creuset pour le groupe Medvekine. On retrouve d'ailleurs un des personnages de la première partie de l'émission dans le groupe de Clermoulin.
Paul Seb quitte la Rodia Seta après avoir réalisé Classe de lutte et il passe à Sochaux où il va impulser un second groupe Medvekine avec des ouvriers plus jeunes venus d'autres régions, c'est-à-dire que ce n'est plus tellement des franc-comtois dont on attendait l'accent magnifique tout à l'heure, ce sont plutôt des ouvriers venus de partout, de toute la France et puis également des pays étrangers qui vont se retrouver pour faire ces films à Sochaux.
Ces jeunes ouvriers, ils sont moins intégrés que ceux de Besançon et ils vivent dans des foyers. Et voilà qu'en 71, un foyer se met en grève.
Voilà, c'est-à-dire que les conditions, à la fois le prix des loyers, la discipline qu'on y fait régner, l'interdiction, par exemple, d'inviter des jeunes femmes dans les foyers, etc. Tout cela cristallise la colère de ces jeunes ouvriers et ils mènent une grève très dure. Et évidemment, Paul Seb est attentif à ce qui se passe à ce moment-là.
Alors, c'est difficile de filmer quand la grève a eu lieu. Qu'à cela ne tienne, explique Bruno Muel, un des piliers du groupe Medvekine.
Et les jeunes de l'usine qui en plus avait fait une grève assez sauvage, une grève qui n'était pas du tout encadrée au départ. La grève des ALTM, c'est les foyers, ça correspond à Sonacotra ou ces trucs-là, c'est des logements de jeunes travailleurs immigrés en général, mais là-bas, à l'époque, les immigrés, c'était des immigrés de l'intérieur, c'était, ils venaient de Bretagne, d'Avignon ou de je ne sais pas où, et on les logeait dans des foyers qui appartenaient à Peugeot, et Peugeot voulait faire régner une discipline comme dans l'usine. Et ils se sont révoltés, ils ont fait une grève qui a été un succès, une réussite formidable, ils ont obtenu beaucoup de choses. C'est au moment où Paul Seb arrivait là-bas à Sochaux. Et il m'a téléphoné en me disant, ils ont fait une grève formidable, il faut qu'on fasse un film là-dessus. Et c'est là que je lui ai dit, mais faire un film c'est bien joli, mais on ne l'a pas filmé cette grève, il n'y a pas d'image. Et il me dit, oh, c'est pas grave, et les copains, les jeunes là, ils disent qu'on va rejouer tout ça. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'avoir des scènes jouer. Mais ensuite, ils ont rejoué plus que ça, puisqu'ils ont rejoué le travail dans l'usine, dans laquelle on ne pouvait pas entrer.
Alors, on utilise des comédiens, le théâtre des habitants. Il n'y a pas encore Jacques Clichy à Montbéliard, mais le théâtre des habitants tourne peut-être un peu en rond, fournit des prestataires. On reconstitue une chaîne.
Voilà. Alors, il y a deux films qui sont réalisés.
Comment on fait d'ailleurs pour reconstituer une chaîne ?
Les jeunes apportent leur viennent avec à Clermoulin, donc avec leur voiture, et ensuite cette chaîne est éclairée par quelques projecteurs apportés par Bruno Muel, et ils rejouent le travail évidemment en à la fois de manière sérieuse et de manière ludique. Il y a cette espèce de jeu assez amusant quand on revoit ces films.
Je vous ai interrompu quand vous disiez qu'il y avait deux films.
Oui, il y a deux films. Il y en a un premier qui s'appelle Les Trois Quarts de la Vie, parce qu'il passe les trois quarts de la vie au boulot. Et où il y en a Sochaux, parce que justement, pour faire ces films, ces jeunes ouvriers, en plus de leur travail, passent leur week-end à Clermoulin pour réaliser ce long métrage, enfin ce moyen métrage, ça fait 52 minutes environ, en couleur, avec Bruno Muel et un certain nombre de techniciens.
Et on utilise du matériel de récupération qui est fourni par les états généraux du cinéma ou par des professionnels de la profession. Il faut dire qu'à l'époque, le fond de l'air est rouge, pour reprendre un titre de Chris Marker, dans le cinéma français. Il faut des figures, il faut des corps. C'est ça d'ailleurs qui rend difficile la représentation du monde ouvrier dans la fiction, du moins après Gabin. Et là, il y a des corps.
Là, dans Weekend à Sochaux, il y a un corps d'un ouvrier. C'est René Le Digereur, un ouvrier qui apparaît en son nom même dans le film, qui est un ouvrier qui vient de Bretagne, qui est un grand bonhomme barbu et qui transporte pendant tout le film quasiment sa malle.
Oui, parce que
au
c'est...
fur et à mesure qu'il est chassé d'un foyer et qui montre à la fois son militantisme et la difficulté quotidienne de ces jeunes.
C'est un processus d'intégration qui est raconté.
Oui,
c'est
absolument.
Un costaud, mais enfin, il a quand même été attaqué, peut-être pendant ou après le tournage du film.
Alors, Le Digereur, en avril 72, est tabassé très violemment par un commando CFDT. Il est laissé pour mort et il a laissé sa santé dans ce militantisme-là. Parce que faire ces films exposait ces militants, ces jeunes militants, à une répression qui pouvait être très violente.
La CFT, c'est un syndicat maison. Il y avait à l'époque un important syndicalisme maison dans plusieurs usines automobiles. Alors l'intégration, c'est le passage des tests pour mesurer l'intelligence nécessairement limitée de l'ouvrier.
Monsieur Le Digereur, René. Asseyez-vous. Vous avez là un certain nombre de petits carrés. Vous avez 5 secondes pour faire le plus grand nombre possible de petits tas de 4 éléments. Partez. Terminé. Vous avez là une vis, un écrou. Quel rapport mécanique réalisez-vous ? 10 secondes. Partez. Terminé. Vous avez là un marteau, une planche, un clou. Que faites-vous avec ces 3 éléments ? 15 secondes.
Monsieur, vos tests sont concluants. Vous serez affecté en peinture.
Mais monsieur, j'ai un CAP de mécanicien.
Je suis désolé. Merci. Monsieur Dubois Jacques. Bonjour, monsieur. Je vois que vous avez un CAP de peintre.
Oui, monsieur.
Monsieur, vos tests sont concluants. Vous serez affecté en fonderie.
Hein ?
Merci.
Au fond, l'idéal, c'est ce que réalisent certains chefs d'entreprise de l'agroalimentaire en Bretagne aujourd'hui, c'est d'avoir un pourcentage important d'ouvriers illettrés. Ce n'est pas du tout la manière dont se présentent les membres du groupe Medvekin.
Non, ce sont des jeunes ouvriers qui ont souvent des CAP, qui ont eu une formation professionnelle dans les CET et qui ensuite viennent à Sochaux parce qu'ils ont c'est comme ça qu'on leur présente l'usine, ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir y faire carrière et en réalité ils sont affectés dans des départements exclusivement en fonction des besoins de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils montrent ces tests psychotechniques, ils montrent à la fois le caractère dérisoire de ces tests et le fait que leur affectation ne dépend absolument pas de ce qu'ils ont pu faire et ce qu'ils savent faire.
Les DVD, le coffret, dans le coffret édité par les éditions Montparnasse, on trouvera près d'une dizaine de films. La fin,
intervient quand même en 72-73. En 73, de l'argent est donné par le Centre national du cinéma au groupe, qui décide, en accord avec les ouvriers de Sochaux, de le consacrer plutôt à un tournage sur le coup d'État au Chili. Et dès 72, l'argent avait manqué pour finir Week-end à Sochaux. Alors on avait imaginé de donner la parole, elle aurait décrit l'avenir dont elle rêvait, à Annette. Annette, c'est la fille de Paléo. Alors Paléo, c'est un des grands personnages aussi des groupes.
Voilà. Alors là, c'est pas exactement la même figure, parce que c'est un immigré espagnol qui a combattu pendant la guerre civile, qui a ensuite été résistant, qui a voulu continuer à combattre le franquisme après la libération, et qui s'est ensuite installé à Sochaux, où il a participé à la création de Clermoulin. Et c'est un personnage qui parle des exploitateurs.
Il va souffrir ensuite d'un cancer des voies respiratoires, survivre, mais privé de sa voix. Alors c'est Annette qui parle.
Pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Parce que le chômage, ça sert à rien. Et un ouvrier sans travail, c'est rien. Le directeur, lui, il sera nommé par les ouvriers. Le directeur administrera, mais ne sera pas payé. Il travaillera à la chaîne. Il aura la paye d'un P2 si c'est un P2. Les ouvriers, eux, auront une certaine production à fournir, mais ils la fourniront, ils seront plus contents parce qu'ils sauront qu'ils travaillent pour eux. Ils auront moins d'heures, bien sûr. Pour la cité, il faut d'abord supprimer tout ce qui enlaidit, les fumées, les blocs, les cheminées, puis ça sera remplacé par des petites maisons, des immenses jardins, de l'herbe, des arbres, puis des fleurs. N'importe qui rentrera dans n'importe quelle maison, on l'accueillera en frère. Les portes seront pas fermées, il n'y aura pas de clé, il n'y aura plus de voleurs donc. Il faut que les gens aient confiance et se fassent confiance. Et cette confiance sera accentuée par la suppression des frontières qui ne servent qu'à séparer les hommes encore plus, à les traiter d'étrangers, et la suppression de l'argent qui les rend avares, envieux et soupçonneux.
Voilà, 72, Week-end à Sochaux, Annette qui est devenue médecin, qui a épousé un médecin, mais la promotion des enfants ne s'est pas faite souvent aussi bien, ou à la tenue du faux semblant. Je voudrais que, pour finir, vous nous aidiez à réfléchir sur l'intégration des ouvriers en tant que citoyens. Parce que des usines, ils avaient fait des lieux politiques, et puis ils étaient dans le combat politique.
Oui, ce sont souvent des militants syndicalistes et politisés. Évidemment, ils combattent à la fois l'ordre usinier, mais aussi la droite au pouvoir à ce moment-là. Et soit dans les groupes d'extrême-gauche, soit au Parti communiste, et ils se mobilisent massivement pour faire élire François Mitterrand en 1981, quitte ensuite à être très vivement déçu.
Oui, là aussi, c'est peut-être un faux semblant. Je renvoie Xavier Vignat à vos livres, notamment à l'histoire des ouvriers en France, aux éditions Perrin, nos auditeurs à notre site où ils trouveront celui des amis de Chris Marker, les références concernant la réédition de ses films chez Arte. Et chez Montparnasse, Chris Marker qui disait « Je n'ai jamais considéré que l'histoire était sucrée, donc elle ne me déçoit pas et je n'en conçois pas d'amertume ». L'émission a été réalisée, on l'a dit, par Jacques Sigal, on l'a dit, préparée par Franck Olivard, avec à la technique, tout exprès, Sophie Moreno.